Voilà, alors, nouvelle séance autour de la question du salut, qui fait directement écho à ce que nous avons vu la fois dernière sur la question de la prédestination. Parce qu'évidemment, quand on pense prédestination, on pense double prédestination, telle que cela a été exprimé par Jean Calvin, avec les uns en quelque sorte destinés au paradis et les autres destinés à l'enfer. Alors, on avait eu l'occasion de voir que dans la Bible, la prédestination n'était pas dans ce dualisme-là, hein, que la prédestination, dans la perspective biblique, c'était plutôt une sorte de projet que Dieu concevait dès le départ et qu'il essayait en quelque sorte d'amener les uns et les autres à ce qu'ils adoptent eux-mêmes ce projet. Et donc, il y a une prédestination au bonheur. Et puis ensuite, la pédagogie de Dieu, c'est d'essayer en permanence d'ouvrir des chemins devant les uns et les autres pour que ce bonheur soit accessible et que ce ne soit pas une sorte de chimère ou que ce soit renvoyé à un au-delà hypothétique. Donc voilà, la pédagogie de Dieu, c'est ici et maintenant d'ouvrir des chemins, des voies en direction de quelque chose qu'il a, dès le départ, imaginé pour son peuple. C'est ça aussi la prédestination, c'est orienter par avance, enfin proposer une orientation par avance, proposer du sens. Mais alors effectivement, la question du salut se pose aussi dans les termes de pour qui en fait? Et si on avait vu que certains prônent finalement le fait que le salut c'est pas pour tout le monde, que certains n'y auront pas droit, eh bien, aujourd'hui, on va au contraire voir l'autre versant, la question du salut universel, le salut pour tous. Alors, bien sûr, j'imagine à quel point, ici rassemblés, vous vous dites, mais ça, c'est une question qui date du Moyen-Âge. Bien sûr que maintenant, tout le monde adhère à un principe du salut universel. Bien sûr que personne n'aurait l'idée de considérer que tel ou tel n'aurait pas le droit à sa petite part de paradis. Bien. Umberto Eco, qui est loin d'être une personne fantasque, a écrit un livre qui, lui, l'est un peu, « Comment voyager avec un saumon ?» C'est un saumon. Comment voyager avec un saumon ? C'est une somme de pastiches, de textes pour amuser, mais qui, en général, s'appuie sur des faits réels, souvent des idées reçues, des images d'Épinal, etc. Il a un texte qui est tout à fait important parce qu'il est intitulé « Affronter les nouvelles technologies, comment reconnaître la religion d'un logiciel ?» Voilà. Alors c'est un texte que je vous lis sur sa première page et vous allez entendre à quel point il fait écho à quelque chose qui, de nos jours encore, à la vie dure. Alors donc, voici comment Umberto Eco commence ce petit texte. Une nouvelle guerre de religion modifie subrepticement notre monde contemporain. J'en suis convaincu depuis longtemps, et lorsque j'évoque cette idée, je m'aperçois qu'elle recueille aussitôt un consensus. Ceci n'a pas pu vous échapper, le monde est aujourd'hui divisé en deux. D'un côté, les partisans du Macintosh, et de l'autre, ceux du PC sous MS-DOS. Eh bien, je suis intimement persuadé que le Macintosh est catholique et le DOS protestant. Je dirais même plus. Le Mac est catholique contre-réformateur, emprunt de la ratio studiorum des jésuites. Il est convivial, amical, conciliant. Il explique pas à pas aux fidèles la marche à suivre pour atteindre, sinon le royaume des cieux, du moins l'instant final de l'impression du document. Il est catéchistique. L'essence de la révélation est résolue en formules compréhensibles et en icônes somptueuses. Tout le monde a droit au salut. Le DOS est protestant, voire carrément calviniste. Il prévoit une libre interprétation des Écritures, requiert des décisions tourmentées, impose une herméneutique subtile, garantit que le salut n'est pas à la portée de tous. Vous entendez ça? Le protestant, c'est l'assurance que le salut n'est pas à la portée de tous. Il continue ainsi. Faire marcher le système nécessite un ensemble d'actes personnels interprétatifs du logiciel, et là vous allez peut-être vous reconnaître. Seul, loin de la communauté baroque des joyeux de rille, l'utilisateur est enfermé dans son obsession intérieure. On m'objectera que l'arrivée de Windows a rapproché l'univers du DOS de la tolérance contre-réformatrice du Mac. Rien de plus exact, Windows constitue un schisme de type anglican, de somptueuses cérémonies au sein des cathédrales, mais toujours la possibilité de revenir au DOS afin de modifier un tas de choses. Donc voilà un propos qui, bien sûr, est là pour faire sourire, mais qui, vous voyez, s'appuie sur cette idée selon laquelle, en protestantisme, le salut n'est pas à la portée de tous. Et au fond, c'est ce que vous entendez peut-être assez souvent, dans l'esprit des uns et des autres. Ce qui différencie, disons, les catholiques des protestants, eh bien, c'est que, pour les protestants, le salut n'est pas quelque chose d'universellement partagé. Et même dans l'esprit des plus réfractaires, il y a un enfer, et cet enfer, c'est pour les protestants. Oui, il y a aussi des réfractaires à l'informatique, c'est certain. Alors, ce que je propose pour aborder ce volet sur la question du salut universel, c'est donc les deux textes que je vous ai proposés. Tout d'abord dans l'épître de Paul aux Romains, et puis dans l'épître à Timothée. Alors, je vous fais passer les deux textes sur une seule feuille. Et si on n'a pas assez, j'en ai encore quelques autres. Je vous les fais passer parce que je les ai présentés d'une manière à ce que les articulations du texte soient mises en évidence. Alors, deux textes parce que finalement, deux façons d'aborder cette question. Avec l'Épître aux Romains, je dirais une approche vraiment théologique, avec des notions théologiques qui sont convoquées pour essayer d'expliquer la chose. Et puis avec l'Épître de Paul à Timothée, je dirais une approche plutôt anthropologique, une approche peut-être plus humaine en quelque sorte, qui est peut-être plus compréhensible par ceux qui n'ont pas l'arrière-plan théologique que Paul développe. Il y a d'autres textes à faire passer pour ceux qui n'en auraient pas. Non, mais après j'en ai en petit format. Voilà, j'ai aussi des petits formats des deux textes. Je vous fais d'abord passer l'Épître aux Romains, en espérant qu'il y en aura assez pour tout le monde. Je vous ai mis la version de Louis II, et nous allons discuter un peu sur la raison pour laquelle j'ai organisé la matière comme ça. Je pense que ce serait bien si on commençait par lire le texte, et peut-être quelqu'un peut lire le texte dans sa Bible personnelle avec la traduction dont il est familier. Si vous avez besoin de relayer la lecture, c'est aussi possible. Je suis sûr que le salut est universel de mon point de vue, donc vous pouvez vous lancer dans la lecture sans être condamné à être voué aux gémonies. L'Épître aux Romains, chapitre 5. Voilà.
C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de foi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute, comme si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Oui. Il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme, car le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation, tandis que le don gratuit après de nombreuses fautes aboutit à la justification. Si par la faute d'un seul la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur.
Merci beaucoup. Bon, je pense que ce texte, vous avez eu l'occasion de le lire chez vous à tête reposée, comme ça, en un seul bloc. Quel est un peu votre sentiment face à ce genre de texte ?
C'est du folle.
Excusez-moi. Très bien. Et alors, pour vous, du folle, ça représente quoi ?
Et quand on essaie de traduire, en prenant le texte grec,
oui,
on se rend compte des difficultés qu'ont eu les traducteurs. Mm-hmm. Parce que moi, j'ai en plus la traduction de la Tob.
Oui.
C'est pas du tout le texte d'ici.
Bon. C'est... Mais le texte second est quand même assez fidèle au texte grec, je trouve.
Oui, oui, oui. C'est quand même pas un texte facile. Hein.
Oui.
Il y a des choses dans lesquelles, enfin, je trouve que pour moi, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est le verset 20, là.
Oui.
Le début. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât.
Mm-hmm.
Attendez, l'offense, le péché, enfin là, c'est traduit offense, mais dans d'autres, c'est le péché.
Faute. C'est la faute, oui. C'est la pas faute, le péché oui, au sens.
La faute. Il n'a pas besoin de la loi pour...
Ah ben si, c'est à partir du moment où il y a une loi qu'on sait qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui n'est pas.
Il y a une codification par la loi.
Comment ?
Il y a une codification par la loi qui amplifie quelque part.
La loi entraîne ou non une, une sanction
sauvage,
ou...
Le bon sauvage et le...
La loi entraîne une sanction ou au contraire une rétribution, mais ne fait pas que l'offense, le péché, le péché existe indépendamment de la loi, pour moi.
Oui. Alors peut-être que je peux vous faire refaire un petit topo sur la loi dans une perspective théologique. Il y a, la loi a trois fonctions, finalement. La première fonction, c'est un peu... après tout, c'est une convention. Disons que le premier usage de la loi, c'est celui que l'on connaît, c'est l'usage civil. La loi, elle permet de faire en sorte que les gens puissent vivre les uns avec les autres. Elle codifie un peu les rapports sociaux de façon à ce que ce ne soit pas le foutoir en permanence, ce ne soit pas le tohu-bohu. La loi crée un peu d'ordre pour savoir que quand on est en voiture, on laisse passer ceux qui viennent de droite, que quand on est invité chez quelqu'un, on ne met pas les pieds sur la table. Enfin, voilà, tout ce qui relève de la morale et qui fait qu'on n'est pas tout le temps en guerre les uns avec les autres. C'est le premier usage. Le deuxième usage, c'est l'usage que Paul développe. Et c'est l'usage qui, d'ailleurs, va être repris dans l'Église luthérienne. C'est l'usage pédagogique. Au fond, la loi, elle nous permet aussi de mettre en évidence la distance qu'il y a entre ce que nous aurions dû faire et ce que nous avons fait, effectivement. Si on prend, par exemple, le déroulement du culte à l'oratoire, il y a d'abord l'expression de la volonté de Dieu et ensuite une prière de repentance. Eh bien, c'est tout à fait dans cette logique de la pédagogie de la loi. On rappelle la loi, et puis après, cette loi, finalement, elle se place comme mesure par rapport à tout ce que nous avons fait. Et donc, elle nous conduit à la prière de repentance, à la prière d'humilité, pour dire, effectivement, nous sommes vraiment pécheurs. Quoi. Parce que tout le bien qu'on aurait dû faire, on ne l'a pas fait, et le mal qu'on aurait dû éviter, on n'a pas pu s'empêcher de le faire. C'est un peu c'est exactement ce que dit Paul d'ailleurs. Donc, c'est exactement ce qu'il y a là. L'offense abonde avec la loi. C'est-à-dire que la loi, c'est ce qui permet de révéler la nature des actes. aussi bien dans le plus que dans le moins. Donc, plus il y a de lois, et plus on voit les belles choses et les choses immondes. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de conscience morale ne se rend pas compte de ce qu'est un acte barbare, par exemple. Et donc, la loi, c'est ce qui construit cette conscience morale, et c'est ce qui permet de pouvoir quand même qualifier tel ou tel acte. Et puis, il y a un troisième usage de la loi, et ça, c'est un usage qui est développé essentiellement par Jean Calvin, c'est l'usage éthique. Martin Luther va dire, au fond, la loi, elle est là pour montrer que je suis vraiment un incapable, que je suis toujours en deçà de ce que je devrais faire. Eh bien, Jean Calvin, dans l'usage éthique, va dire au contraire, la loi, c'est ce que Dieu nous conseille de faire parce qu'il nous en donne les moyens. D'ailleurs, en principe, dans une église réformée, la volonté de Dieu dans un culte devrait être après l'annonce de la grâce. Logiquement, on devrait avoir prière de repentance, on se reconnaît comme pécheur. Voilà, notre nature fait que on n'accomplit jamais exactement tout ce que nous devrions faire. Mais le Dieu d'amour nous dit « Ok, c'est comme ça, il n'empêche que moi je suis là et je vais pouvoir t'aider à faire bien mieux et à avoir une vie un peu plus conforme à ton espérance et à la mienne. » Et ensuite, il y aurait la volonté de Dieu qui doit dire « Eh bien voilà le chemin que je te trace, un des chemins que je te trace. Voilà tout ce que je te rends capable d'accomplir. » Et c'est tout à fait important parce que, par exemple, si vous prenez le sermon sur la montagne avec les béatitudes, avec toutes ces choses qui nous semblent au-delà de nos forces, eh bien, dans une perspective peut-être luthérienne, on dira, voilà, en quelque sorte, une sorte d'idéal, etc. Mais bon, on sait bien qu'on n'y arrivera pas. Eh bien, dans la perspective de Jean Calvin, c'est de nous dire au contraire, ça, c'est réalisable dès à présent. Et c'est peut-être la raison pour laquelle quelqu'un comme Max Weber, qui réfléchit sur l'éthique protestante et l'origine du capitalisme, dit, au fond, les membres de l'Église réformée, les protestants dans la branche calvinienne, ont été extrêmement entreprenants parce que la prédication, la théologie développée, leur disait qu'ils étaient capables de faire. Ils étaient capables d'entreprendre, ils étaient capables de réussir. Ils étaient capables de mettre en pratique le projet de Dieu. Et au fond, la grande question par rapport à l'Évangile, c'est de savoir si c'est praticable ou pas. Est-ce que l'Évangile, il y a des maisons pour ça, ou est-ce que ça peut être une sorte de chemin pour notre vie quotidienne? Eh bien, en perspective protestante réformée, l'Évangile, c'est quelque chose qui peut être appliqué dès à présent. Alors, bien sûr, tout ne va pas réussir, parce qu'il y a des circonstances de la vie, il y a des contraintes qui font qu'on n'est pas tout seul, et qu'il y a aussi des forces d'opposition. Mais l'idée est qu'il y a un usage éthique possible de la loi. Mais ça, ce n'est pas l'apôtre Paul qui le développe. Et donc, effectivement, ce verset 20 peut être un peu stupéfiant, mais il s'appuie sur cette conception de la loi, l'usage pédagogique, qui révèle à quel point on est toujours en deçà de notre vocation. Là, c'est un poil plus clair.
Oui, moi c'est le verbe « abonder » qui me choque un peu. La loi est intervenue pour que l'offense abondât. C'est-à-dire pour... je comprends mal ce...
Oui, je sens, j'ai amplifié, moi, alors c'est encore plus compliqué.
Ouais.
Et moi, j'ai pullule. Je suis plus grec.
Oui, ouais, c'est-à-dire que...
On peut avoir une définition du mot péché pour situer les choses.
Oui. Alors ça, je vous l'avais donné à la première séance. Amartia, le péché, ou rata en hébreu. Je vous prends une image pour vous illustrer cela. Imaginez que vous fassiez du tir à l'arc. Le péché, c'est la distance qu'il y a entre le cœur de la cible et l'endroit où votre flèche est arrivée. C'est-à-dire que le péché, c'est la distance qu'il y a entre ce que l'on est appelé à faire et ce que l'on réalise effectivement. Le péché, dans les textes bibliques, notamment dans le récit de la Genèse où il y a Adam, Ève, le petit repas dans le jardin, etc., c'est la distance qu'il y a entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire que Dieu donne quelques conseils à l'homme pour bien vivre, et il n'en donne pas beaucoup, hein. Il dit « tu peux consommer de tout, tout est à toi, mais ça, tu évites là. » Là, le fruit de la connaissance du bien et du mal, en fait, tu ne pourras pas y avoir accès, c'est une sorte d'illusion. Bon, il n'en tient pas compte. Et au fond, le péché, c'est la distance qu'il y a entre ce que l'homme aurait pu mettre en œuvre s'il avait été proche de Dieu, et puis ce qu'il a effectivement mis en œuvre parce qu'en fait, il s'en est éloigné. Il a préféré se rapprocher d'une autre voie que de celle de Dieu. Et le péché, c'est ça. Ce n'est pas d'abord une question morale, le péché. Ce n'est pas d'abord est-ce qu'on a enfreint telle ou telle règle. C'est l'écart qu'il y a entre celui qu'on pourrait être et celui qu'on est véritablement. Et cette distance, finalement, est à la mesure de la distance que l'on met entre Dieu et nous. Dans la perspective biblique, c'est un peu comme cela que ça se passe. Le pécheur, ce n'est pas d'abord celui qui commet telle ou telle faute morale avec nos critères, c'est celui qui, au fond, ne fait pas confiance à Dieu, ou de façon limitée. Et plus la limite est grande, et plus le péché est grand, en quelque sorte, et plus il y a une sorte d'écart qui s'instaure. Est-ce que ça vous va comme définition ?
Je ne sais pas où se situe la confiance là-dedans.
Eh bien, la confiance, en fait, c'est la foi que l'on met dans une parole qui est reçue.
Ah, d'accord.
La confiance, c'est si Dieu dit quelque chose à Adam, s'il lui fait confiance, bah, il va s'évertuer à non seulement respecter cette parole, mais à la mettre en application, à la mettre en œuvre, à l'incarner. S'il ne lui fait pas confiance, il va se dire, ouais, c'est peut-être pas tout à fait la vérité, je vais prendre en quelque sorte de la liberté par rapport à ce qui m'a été dit.
D'accord. Alors, ce qui importe, c'est la parole et de la respecter dans sa vérité.
Oui, parce que dans la Bible, la parole issue de Dieu est une parole qui nous aide à vivre. Plus on s'en éloigne, et moins cette aide est à notre disposition. Voilà. Et c'est une façon de dire les choses pour vraiment dégager de la question morale, qui n'entre pas vraiment en compte, je trouve, dans ces textes bibliques. Quant à la question, puisque vous évoquiez le texte grec, intéressant d'entendre que le terme grec, c'est pléonasé. Ça relève du pléonasme, en quelque sorte. Mm. Vous voyez, c'est il y a une sorte d'excès, il y a une sorte de d'au-delà de ce qui est envisageable. Et du coup, ce qui est déjà excessif est encore dépassé par la grâce. Vous voyez, il y a une sorte de concurrence, il y a un concours entre le péché et la grâce, et Paul nous dit, eh bien, même si le péché semble être au maximum des possibilités, eh bien, la grâce vient encore par-dessus. On reprend à partir du début un peu ? C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Est-ce que cela vous fait penser à une image ? En fait, c'est une image. Et ça vous évoque quoi ? Si on devait faire une comparaison, surtout par les temps qui courent.
Je crois que, par exemple, une vanne qui sauterait, et puis l'ensemble du lac se répandrait sur l'ensemble des gens qui sont autour.
On peut l'envisager comme ça sur le plan d'une société. Je pensais plus sur le plan individuel, parce que c'est... Ça concerne lui-même, et effectivement il y a quelque chose comme ça qui se répand parce qu'il y a une vanne qui lâche ou il y a un barrage qui se fendille. Mais
la pandémie.
Exactement, je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du virus. Vous voyez, c'est comme s'il y avait quelque part une faille dans notre système immunitaire. Ça rentre. Bon. Non, bah on s'arrangera pour que ça puisse s'ouvrir plus facilement. Effectivement, sinon je peux laisser ma chaise.
Non, on cherche une autre.
Non, on va vous chercher une chaise, ne vous inquiétez pas. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui est comme de l'ordre du virus. Vous voyez ça, au verset 12, ça rentre, Aïsir comme aïe, c'est comme l'entrée du virus. Et puis ensuite, ça se répand dans le système, Dir comme aïe, hein, ça traverse. C'est juste le même verbe avec deux préfixes différents, l'un qui rentre, qui va jusqu'à l'intérieur d'eux, et puis ensuite, l'autre, ça permet de traverser tout. Et donc, c'est comme si rien n'échappait à cela. Et ce terme est, à mon avis, utilisé pour à la fois rendre la chose dynamique, pour montrer que c'est un processus qui va de l'avant, proactif en quelque sorte, et puis surtout qui ne laisse aucune zone de côté. Et il me semble que cela a une fonction, c'est de dire qu'il y a une universalité du péché. Il y a quelque chose qui concerne tout le monde. Il y a personne qui peut dire qu'il en est exempt. Et du coup, c'est là-dessus que Paul, en fait, va travailler. Parce que pour qu'il y ait une universalité du salut, il faut aussi qu'il y ait une universalité du péché. Et au fond, ce que Paul commence par établir, c'est qu'on est tous confrontés à la même situation. Tous, sans exception. Il n'y aurait pas de personne qui aurait pu échapper, même miraculeusement, à cette nature-là, si vous voyez ce que je veux dire. Bien. Ça, c'est le premier point. Universalité du péché. Et puis, le deuxième point qu'il met en place, dès le départ, c'est le fait qu'il y a eu une porte d'entrée. Et cette porte d'entrée, c'est un seul homme. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin pour savoir qui est cet homme, c'est Adam. C'est par Adam que le péché entre. Et on va voir par qui ça sort. Mais voilà, comment Paul pose finalement le décor. Tout le monde concerné, une porte d'entrée. Et donc ça, c'est le point de départ du drame. Du coup, le point d'arrivée du drame, qui va être par un effet miroir. L'inverse de tout le monde est concerné par le péché et c'est par un seul homme que c'est entré. L'inverse, c'est
tout le monde est sauvé par la grâce.
Tout le monde est sauvé et c'est par un seul homme que ça sort. Reste à trouver quel est le protagoniste en question. Et donc, effectivement, il ne va pas y avoir besoin de chercher beaucoup pour trouver. C'est dès le verset 15, un seul homme, Jésus-Christ.
Mais juste avant, oui. Verset 14, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse.
Oui.
Pourquoi s'arrête-t-il à Moïse? Pourquoi?
Parce que Moïse est celui qui est considéré comme le fournisseur de la loi. Donc, d'un côté, Paul dit, va montrer à quel point la loi révèle le péché, mais on est bien d'accord. La loi ne fait que le révéler. Ce n'est pas la loi qui provoque le péché. Parce que le péché, une fois de plus, n'est pas de l'ordre de la morale. Donc, finalement, la loi, c'est un peu comme de la poussière que vous jetez dans une pièce et vous voyez les rayons de lumière que jusque-là, vous ne voyez pas. Et pourtant, la lumière entrait. Mais c'est la poussière que vous jetez qui vous permet de voir les raies de lumière. Et bien là, c'est un peu pareil. Il y a la loi adamique, en quelque sorte, la loi noachique et la loi mosaïque, qui est l'accomplissement de la loi. Avec Moïse, en fait, on a tout l'arsenal législatif. Donc ça veut dire que même quand on n'a pas l'arsenal législatif, on est quand même sous le coup du péché. C'est-à-dire que sous le coup de cette distance entre celui qu'on pourrait être et celui qu'on est véritablement. Et vous voyez, c'est intéressant. La mort a régné même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. C'est-à-dire qu'on s'en fiche de savoir qui est gros pécheur, qui est petit pécheur, etc. L'idée, c'est qu'il y a une sorte de solidarité dans le genre humain. Alors, ce n'est pas pour accabler l'homme outre mesure. C'est plutôt, effectivement, pour que personne ne se considère comme supérieur à l'autre. En fait, Paul est en train d'établir une sorte de fraternité. Alors, ce n'est pas une fraternité par le bas, en disant on est tous pécheurs. On voit que sur la fin, c'est au contraire, nous sommes tous rendus justes. Donc, c'est une fraternité par le haut. Mais il a besoin d'établir d'abord les liens. Parce qu'en fait, voilà, il y a une sorte de réseau qui se met en place. Quand un virus infecte un réseau informatique, ce sont tous les ordinateurs qui sont contaminés. Et à l'inverse, si on nettoie le réseau informatique, ce sont tous les ordinateurs qui vont être nettoyés. Donc il y a vraiment un parallélisme. Mais continuons peut-être avec cette idée, la loi qui permet au péché de surabonder. Je comprends qu'elle soit un peu étonnante, cette façon de voir les choses. Et pourtant, c'est ce qui court dans les versets 15, 16 et même 17. Et c'est un peu ce que Spinoza va expliquer en termes de théorie de l'esthétique du mal. Bon, je vous l'expose parce que ça existe, mais je trouve que c'est une réponse un peu à double tranchant. Spinoza dit, finalement, il y a une fonction esthétique au mal, c'est que le mal permet de mettre en relief le bien. Le mal est comme l'ombre du bien, et sans ombre, on ne distingue pas les choses, tout serait écrasé. Et au fond, le mal, c'est peut-être ce qui nous permet de jouir encore plus intensément du bien. Moi, je trouve qu'il y a un côté extrêmement scandaleux dans cette affaire-là, c'est que ça justifie la présence du mal. Hein, vous savez, ça veut dire qu'après, on peut être violent, ça permet de mettre en évidence plus fortement les moments où on est doux. Vous voyez, c'est quand même très, très ambigu. Mais il y a quelque chose de juste qui est, admettons que ce ne soit pas la fonction du mal de souligner le bien, au moins peut-on constater que quand quelque part il y a une zone d'ombre, il y a du mal, il y a de l'injustice, eh bien il est vrai que la justice, la douceur, la tendresse est d'autant plus fortement ressentie. C'est vrai qu'il y a quand même un jeu de contraste. Mais non pas parce qu'on aurait souhaité expressément qu'il y ait du mal pour que la bonté soit vue, mais qu'à cette occasion-là, c'est comme ça que les choses se passent. C'est comme la question de la souffrance dans la Bible. On ne dit pas « c'est bien de souffrir, ça permet comme ça à Dieu de montrer qu'il peut guérir, qu'il peut soulager, qu'il peut consoler, etc. » c'est comme l'histoire de l'aveugle de naissance. Ah, mais c'était bien, comme ça Dieu peut faire des miracles, et comme ça on peut voir à quel point Dieu est puissant, etc. Non, c'est que profitons de cette situation pour y voir quelque chose de positif. Profitons de cette situation pour montrer de quoi on est capable. Mais les situations négatives ne sont pas là posées d'emblée pour qu'on puisse faire nos preuves.
C'est pas un petit peu le fondement de la théorie de la non-violence ?
C'est-à-dire ?
En particulier dans les problèmes maintenant qui sont beaucoup mis en valeur par l'arrivée d'Obama au pouvoir, où on rappelle toutes ces personnes qui se sont mises en route, mais d'une façon paisible, et qui quelquefois ont été... toute la non-violence, et puis Gandhi aussi. Je crois que c'est vraiment cette théorie-là, elle est très mise en valeur par ce choix de non-violence.
Oui. Alors, par exemple, prenons le cas de Martin Luther King, l'idée, c'est justement d'être dans l'asymétrie. Par rapport à notre texte, quand même pour faire droit à notre texte, vous voyez qu'en dessous, je vous ai mis deux cases dans lesquelles il y a d'une part les contraires et d'autre part les synonymes. C'est-à-dire qu'il y a dans notre texte des jeux de miroir. Donc, sur des choses qui s'opposent. C'est-à-dire tous pécheurs, tous sauvés, le péché qui rentre par un, le péché qui sort par un. Donc vous voyez, des effets miroirs, mais aussi des choses qui sont contraires. Il y a par exemple le fait que, après tout, le péché entre par l'un, mais que ce soit beaucoup qui soient sauvés. Il y a une forme d'asymétrie. Et la non-violence, c'est justement une logique d'asymétrie. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre à la violence par une violence semblable, voire supérieure, on répond à la violence par, j'allais dire, de la douceur. On répond en tous les cas à une injustice par une justice. L'idée, c'est qu'on ne combat pas le mal par le mal, mais on combat le mal par un bien supérieur, par une justice supérieure. Et ça, on le trouve précisément dans le fait que, au verset 20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça se joue dans une asymétrie, en fait. La symétrie, elle est là pour dire que, d'abord, on n'est pas dans un jeu à somme nulle, où il faudrait maintenir des espèces d'équilibre, comme au tarot, où finalement, à la fin, si on fait la somme de tous les scores, ça fait zéro. Ça veut dire qu'on peut être gagnant-gagnant. Ça veut dire que la vie telle qu'elle est conçue par Dieu n'est pas une vie où d'un côté il faudrait qu'il y ait des perdants pour que de l'autre côté il y ait des gagnants et que l'ensemble s'équilibre. La logique de Paul, c'est de dire c'est que dans la perspective de Dieu, tout le monde va être sorti de cette situation qui est vraiment pas souhaitable, qui n'est pas l'idéal de Dieu. Plutôt que de dire, on va en sauver quelques-uns, mais pour en sauver quelques-uns, forcément, il faut en sacrifier d'autres. Vous voyez, la logique sacrificielle est justement absente de ce texte-là. L'idée est la suivante. Il n'y a pas, en fait, un équilibre, il y a vraiment une dissemblance. Je crois que Paul, en fait, essaie de lutter contre quelque chose qui avait cours dans la pensée de l'époque, et ça se retrouve, notamment avec Janus, c'est que le bien et le mal seraient les deux côtés d'une même pièce. Eh bien ça, c'est une logique étrangère à la pensée de Paul, et en fait même à la pensée biblique. Vous savez l'idée qu'il y aurait d'un côté un Dieu bon, et de l'autre côté un démon diabolique, et que ça serait une sorte de lutte perpétuelle entre les deux. Et que finalement, de façon à ce que le monde n'explose pas, il se partagerait un peu le monde, il se donnerait des terrains réservés, etc. Ou alors que forcément, après la pluie, le beau temps, après le beau temps, la pluie, etc., une sorte de jeu cyclique. Hein. Finalement, la vie, ça serait à pile ou face en permanence. Eh bien, justement pas. La pensée de Paul est tout à fait étrangère à cet équilibre, mais plutôt au fait que le bien et le mal ne sont pas de même nature, la vie et la mort ne sont pas de même nature non plus. Du coup, la conséquence directe de cela, c'est que l'humanité n'est pas à hésiter entre deux pôles. Vous voyez, c'est souvent, on a l'idée du jugement dernier comme on prend un chemin, puis à un moment donné, ça fait une patte d'oie. Il y a ceux qui vont à droite au paradis et ceux qui vont à gauche en enfer. Mais en fait, cette alternative-là n'existe pas dans la pensée de Paul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, en quelque sorte, deux nations dans l'au-delà où on jouerait à pile ou face ou en fonction de la liste des choses bonnes ou désagréables que nous avons accomplies. Quelle sera la suite de notre voyage ?
Mais quand même, est-ce que cette histoire du salut universel n'est pas en contradiction avec la prédestination exprimée par Paul aussi, hein ?
Bah, justement, la fois dernière...
La prédestination,
oui.
Hein, c'est certain et pas d'autre.
Non.
Suivant la décision du Seigneur. Mais...
Ça, c'est la double prédestination. C'est-à-dire, certains sont effectivement prédestinés au salut éternel et d'autres à la damnation éternelle. Mais on avait vu effectivement que Calvin développait ça. Augustin est dans cette perspective-là aussi. Hein. Calvin le développe par réaction à la situation sociale de son époque. Et que la double prédestination, c'est une façon de casser les castes de l'époque, et notamment les trois ordres. C'est au fond la possibilité de mettre en place ce qu'on appellerait aujourd'hui un ascenseur social, c'est-à-dire que même ceux qui sont mal nés peuvent bien vivre et avoir une vie heureuse, parce que au fond Dieu les a peut-être prédestinés à bien mieux que celui qui se considère comme bien né. Et au fond, la double prédestination chez Calvin, c'est ce qui permet de redistribuer les cartes. Une sorte de New Deal américain, hein, en quelque sorte. C'est du Roosevelt avant l'heure. C'est de considérer que la biologie n'est pas le seul critère pour évaluer la dignité d'une personne, à son époque. Donc c'est une réponse vraiment très particulière, à un contexte très particulier. Dans les textes de Paul, on avait vu que justement, le verbe c'était pro horizo, et ça voulait dire Dieu par avance trace un horizon et nous propose de nous y rendre. C'est quand même autrement plus positif, autrement plus intéressant. Hein. Et comme je vous le disais là en début de séance, après le travail de Dieu c'est en permanence de refaire du chemin, refaire du possible pour qu'on aille vers cet horizon qu'il nous a par avance dessiné. Donc la prédestination, ce n'est pas quelque chose d'effrayant, je trouve, forcément, si on le comprend au sens biblique du terme. Ce n'est pas une fatalité non plus. Ce n'est pas un destin qui s'impose à nous. La prédestination, ce n'est pas forcément qu'on sera obligé de tuer son père, coucher avec sa mère et de se crever les yeux à la fin. C'est vraiment dans l'ordre d'un projet de vie qui nous est donné. Et puis, nous avons la possibilité de nous y rendre et de nous y investir ou pas.
Moi, je rapproche tout à fait ça, le salut universel, à la parabole du semeur.
Oui.
Où la semence est lancée pour tout le monde, quel que soit le terrain.
Oui.
Donc, ça me paraît cohérent avec, oui. Avec ça. La prédestination, j'ai encore des...
Mais d'un autre côté, on a le droit de l'oublier, la prédestination. Je veux dire, ce n'est pas un concept majeur non plus. D'abord, chez Calvin, ça ne représente que quelques pages. Et puis, je trouve qu'on vit très bien sans. Et ce n'est pas du tout le cœur de l'évangile, la prédestination. C'était intéressant de l'évoquer d'abord parce que c'était l'année Calvin. Ensuite, parce que c'est quand même quelque chose qui, bibliquement, est attesté. Mais c'est loin d'être le sommet de l'évangile, la prédestination. Et si ça pose vraiment problème, il vaut mieux le mettre de côté.
Est-ce qu'on peut dire que tous les hommes sont prédestinés au salut ?
Ah oui.
Oui.
Je vais citer un théologien qui n'est absolument pas libéral, Karl Barth, mais qui dit quelque chose qui me semble... Karl Barth. Un théologien suisse, dont le pape disait que c'était le plus grand théologien du XXe siècle, qui écrit ceci, et je trouve que cette phrase est tout à fait juste. Parce qu'il faut aussi faire preuve d'humilité par rapport à la théologie, hein, parce que souvent on a tendance à être très affirmatif en disant « voilà, c'est comme ça, pas autrement, de toute façon nous on sait, on est les plus intelligents, etc. » Karl Barth écrit, et je trouve que cette phrase est tout à fait juste, « Il faut être fou pour enseigner le salut universel. » Il faut être fou pour enseigner le salut universel, mais il faut être impie pour ne pas le croire. Voilà, ça me semble tout à fait juste. Oui, c'est une sorte de koan, je la laisse à votre méditation. Mais oui, parce que, bon, c'est sûr, en plus, et c'est un dialecticien, Karl Barth, mais je trouve qu'il y a quelque chose de juste, c'est que, à la fois, moi, ce que je le dirais comme ça, tout concourt à me faire croire et adhérer au fait que le salut est universel, mais au fond, je ne peux pas le savoir mieux que Dieu. Voilà. Il faut quand même qu'il y ait cette réserve à un moment donné. C'est la réserve de Karl Barth. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit panorama rapide de cette idée de l'universalité du salut avant de prendre la première épître à Timothée. Pour vous montrer que les choses ont quand même suivi une voie modeste. Alors tout d'abord, il me faut vous rendre intelligent en termes de vocabulaire pour vous dire comment s'appelle techniquement parlant le salut universel. Le salut universel, quand vous voulez parler de façon scientifique et universitaire, vous parlez d'apocatastase.
Première fois que j'entends ça.
C'est beau, hein. L'apocatastase. En fait, ça vient donc du grec apokatastasis, qui veut dire rétablissement, restauration. Voilà. Et alors donc, quand vous entendez un conflit entre deux théologiens et l'un se revendique de l'apocatastase, vous comprenez que celui-là est pour le salut universel, alors que l'autre, il est sur un salut partiel. Je vous donne juste quelques éléments par rapport au père de l'Église, tout d'abord, pour vous dire que c'est essentiellement ce qu'on appelle l'école d'Alexandrie qui a développé cela. Si vous vous intéressez un peu au père de l'Église, ne faites surtout pas la passe sur l'école d'Alexandrie. Il me semble que c'est la plus féconde, la plus intéressante, c'est Clément d'Alexandrie, c'est Origène. Ce sont des personnes qui, de mon point de vue, donnent du souffle au texte biblique, donnent du souffle à l'interprétation, à la théologie. Ils ont des textes très vivants, très généreux. Des fois, c'est tellement beau que ça en devient faux, mais je trouve que cette beauté a quelque chose de juste. Oui, c'est quelle époque ? Alors, Clément d'Alexandrie, c'est un peu avant 215. Donc vous voyez, ça reste quand même des pères des premiers temps de l'Église. Clément d'Alexandrie, c'est précisément le premier théologien chrétien à avoir pensé que il y ait une restauration intégrale. C'est pas comme si on restaurait simplement la façade de l'oratoire du Louvre. Là, il y a aussi tout le bâtiment extérieur, l'intérieur, les petites chapelles, la chaire qui est nettoyée, y compris dans la bavoie, tout ça, une toilette pour handicapés, la passerelle pour monter, les fauteuils roulants, tout ça. Intégral. Il n'y a pas un bout qui traîne. Clément d'Alexandrie réfléchit à la question du châtiment des pécheurs. Et il va dire, en fait, le châtiment, quand... si un châtiment intervient sur quelqu'un, c'est de l'ordre thérapeutique et donc temporaire. C'est déjà un progrès énorme à l'époque de dire que le châtiment ne saurait être que thérapeutique et temporaire, limité dans le temps. Et il dit, c'est le seul type de châtiment concevable. S'il y a un châtiment, il ne peut être que limité dans le temps. Donc vous voyez, ce n'est pas la géhenne éternelle, ce n'est pas l'enfer à jamais, etc. Au fond, il dit « Une fois l'âme purifiée de ses attachements passionnels, elle peut accéder à cette contemplation éternelle de Dieu. » Et Origène, qui est du même milieu que Clément d'Alexandrie, lui va avoir le même type de discours qui sera peut-être un peu plus construit sur les textes bibliques. Et il dit, lui aussi, le châtiment doit être psychologique, en termes de remède, et non pas matériel. Sinon, ça relèverait de la vengeance. Donc, vous voyez, il y a une sorte de spiritualisation du châtiment. Pose quelque chose qui est intéressant comme axiome. Il dit, la fin de l'histoire est nécessairement semblable au début de l'histoire. Au regard de l'éternité de Dieu. Et comme l'histoire commence bien, forcément, elle finit bien. Et oui, c'est astucieux, ça. Et oui. Ça, voilà. Ça, vous voyez, c'est le genre d'axiome accessible, intéressant. Et commentant l'épître aux Romains, justement, l'épître aux Romains, il dit, au fond, la miséricorde divine et la liberté humaine sont indestructibles. Ça veut dire que rien ne saurait venir à bout de l'amour de Dieu. Et c'est exactement ce que dit Paul, pas même la mort. La mort, le péché, ça reste toujours inférieur à ce que Dieu est capable de prodiguer en termes d'amour. Et ce qui est intéressant, c'est que Origène semble même penser que Satan et les autres esprits mauvais qui pour nous sont des figures métaphoriques, sont des images, mais qui peut-être pour certains représentent des choses un peu plus personnelles, eh bien, il semble même penser dans un commentaire qu'il fait sur Jean que Satan et les autres esprits mauvais seront compris dans le salut final. Vous voyez cette générosité ? C'est-à-dire que non seulement les pécheurs sont inclus, mais même ceux qui sont à l'origine du péché, à supposer qu'il y en ait qui le soient. C'est pas forcément, enfin, c'est pas du tout ma perspective, mais c'est pour montrer à quel point va cette universalité. À la fin du IVe siècle, Grégoire de Nazianze est exactement dans cette perspective d'un ciel universel. Son ami Grégoire de Nice l'est encore plus. Et voilà ce qu'enseigne Grégoire de Nice. Il enseigne 1. La finitude ontologique du mal. Ça veut dire que le mal est limité dans son être et donc dans ses effets. C'est comme si on pouvait circonscrire le mal dans son côté vital. Supposer que le mal, ce soit quelque chose qui est, eh bien, c'est un être qui est fini et donc limité. Et puis, quelque chose qui fera peut-être écho à ceux qui s'intéressent à la théologie du process, qui veulent toujours mieux comprendre ce qu'est cette théologie du process. Grégoire de Nice dit qu'il y a une sorte de dynamisme naturel qui pousse vers Dieu toutes les créatures douées de raison. Ça, c'est la façon que Grégoire de Nice a de parler de Dieu. Vous vous souvenez que Raphaël Picon, parlant de la théologie du process, dit « Dieu est celui qui attire à lui ». C'est toujours un dynamisme qui est un élan qui pousse, qui conduit. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que tout cela est joyeusement condamné. Une sorte d'hérésie, finalement. C'est mal. C'est condamné sous Justinien. Donc, c'est le VIe siècle. Voilà, plusieurs doctrines originiennes sont condamnées au synode de Constantinople. Donc, c'est 543. Et c'est confirmé au deuxième concile de Constantinople en 553. Et je vous lis ce qu'écrit le canon. « Si quelqu'un dit ou tient que le châtiment des démons ou des impies est temporaire et qu'il aura une fin à un moment donné... ou qu'il y aura une complète restauration des démons et des impies, qu'ils soient anathèmes. » Moi, je trouve qu'il y a des anathèmes qui valent le coup. Après, dans l'époque moderne, je trouve que ça vaut le coup de faire un saut jusqu'au XIXe siècle avec Schleiermacher, un théologien protestant tout à fait fameux. C'est lui qui ouvre un peu la voie de la théologie libérale en Allemagne, et puis ça aura un retentissement énorme en Europe. Voilà, lui, son principe est simple, et c'est ce qui prévaut dans la plupart des théologies libérales. Vous l'avez souvent entendu, notamment dans la bouche de Laurent Gagnebin. Schleiermacher considère que l'idée d'une damnation éternelle est incompatible avec la foi en un Dieu juste est bon. Au fond, voilà, si Dieu est bon, alors la damnation éternelle est ce qui va entrer en contradiction frontale avec Dieu. Vous voulez que je vous écrive Schleiermacher au tableau, c'est ça? Pourtant, ça s'écrit comme ça se prononce. Hein.
Oui, ça, on est sûr. Hein.
Ouais. Schleiermacher. Donc ça, c'est le versant de la théologie protestante libérale. Je ne vous cache pas que je fais l'impasse sur toute la théologie protestante orthodoxe qui, elle, a pris à la lettre la théologie de la double prédestination, enfin la doctrine de la double prédestination, pour considérer que, bah oui, effectivement, il y en a qui sont sauvés, mais pas d'autres, hein, faut pas rigoler. C'est pas que ce soit pas intéressant, mais bon, comme c'est du littéralisme calvinien, ça présente pas d'intérêt. Voilà. C'est, on prend Calvin, on le met dans le marbre et on n'y touche plus, donc ça, c'est un peu dommage. Balthazar qui est un Urs von Balthasar, qui est un théologien catholique au milieu du XXe siècle, est un peu dans la perspective de Karl Barth en disant « Si on ne peut jamais être absolument sûr du salut final de tous, il relève de l'espérance et de l'amour chrétien de tenir qu'il est possible dans le mystère de la grâce salvifique de Dieu. » Et c'est ce qui va prévaloir finalement pour le Concile Vatican II. Et je finis en vous en faire, je ne sais pas si c'est une interrogation écrite, un petit jeu, vous prenez chacun un bout de feuille. Le but, c'est de trouver quel est l'auteur de ce texte que je vous fais passer et que je vous lis pendant que je vous le fais passer. Vous le gardez, vous pourrez ensuite mettre la référence. En outre, l'action salvifique de Jésus-Christ, avec et par son esprit, s'étend à toute l'humanité, au-delà des frontières visibles de l'Église. Traitant du mystère pascal, où le Christ associe déjà maintenant le croyant à sa vie dans l'esprit et lui donne l'espérance de la résurrection, le Concile affirme « Et cela ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au Christ, mais bien pour tous les hommes de bonne volonté, dans le cœur desquels, invisiblement, agit la grâce. En effet, puisque le Christ est mort pour tous, et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. » Je vous fais grâce du paragraphe suivant qui est un peu de la même nature dans le prolongement. À votre avis, qui a écrit ça? Pas tout à fait, mais c'est tout comme. C'est encore pire.
C'est Jean-Paul
II. Et non, c'est Joseph Ratzinger. C'est la fameuse encyclique Dominus Iesus sur l'unicité et l'universalité salvifique de Jésus-Christ et de l'Église. Paragraphe 12. Elle date du 6 août 2000. Incroyable ça, hein, quand même. Non, c'est Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. C'est l'époque où il n'était pas encore pape. C'était lui qui était responsable de la bonne théologie. C'est beau ça quand même. Ça donne envie même. Et ben ça, il faut en tirer les conséquences. Parce que évidemment, quel est l'intérêt de ces textes bibliques et de ces questions, c'est et qu'est-ce que ça produit comme effet? Bien, ce que ça produit comme effet, c'est ce que l'on trouve dans la première épître au Timothée, au chapitre 2, que je vous propose de lire maintenant. Tout simplement. Est-ce que certains n'ont pas le texte tel que je l'ai restructuré? Je vous en fais passer. Timothée, s'il y en a qui n'ont pas eu la grande feuille, je vous fais passer des petites. Voilà. Donc, je vous propose que quelqu'un lise cette première épître à Timothée. Pendant que quelqu'un se déchire dans son âme et conscience pour lire, je vous explique une hypothèse qui peut expliquer pourquoi il y a une telle différence de style entre l'épître aux Romains et l'épître à Timothée. C'est parce que l'épître aux Romains est de Paul et l'épître Timothée pas. C'est-à-dire que l'épître à Timothée est bien sûr dans la veine de Paul, mais est a priori écrite par l'un des collaborateurs, l'un des successeurs de Paul. C'est postérieur. Donc on a d'abord un écrit théologique, et puis ensuite on a en quelque sorte un écrit pratique, ecclésiologique. Les communautés se sont édifiées, maintenant il faut les entretenir, donc c'est plus pastoral, vous voyez. C'est peut-être plus pratique aussi, et ce côté pratique, on va donc le lire au chapitre 2, les versets 1 à 8, si quelqu'un veut bien en prendre la lecture. Sinon je fais plus touche. Oui, d'accord. Merci François.
J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. » Il y a le 8 aussi.
Aussi, oui.
« Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée, d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Ah oui, je veux que les femmes, je dis.
Eh oui, il a sauté les femmes. D'ailleurs, je me suis laissé dire que j'avais bien fait de couper à 8, parce qu'après, les femmes ne sont pas contentes parce que l'apôtre Paul dit. Alors, ne croyez pas que j'ai fait une coupe sombre, un massacre à la tronçonneuse, en voulant esquiver la question douloureuse des femmes, mais songez à ceci, c'est ce que j'ai écrit dans la feuille rose, et je l'expliquais encore à quelqu'un tout à l'heure. Paul n'écrit pas la Bible. Quand Paul écrit, il n'a pas conscience d'écrire un texte biblique. Il n'a pas l'idée que ça va devenir le Nouveau Testament. Il écrit à une communauté particulière une lettre pour résoudre des problèmes dans des circonstances tout à fait spécifiques.
Il n'est pas en train de dire que c'est pas de Paul, que c'est un de ses disciples.
Alors ça, je viens de le dire, mais c'est vrai pour cette lettre-là, c'est vrai pour les autres, pour les lettres qui sont incontestablement de Paul. Paul, quand il écrit aux Romains, il se dit pas « Ah, mais à l'orateur du Louvre, ils vont en parler parce que c'est un texte qui est fondateur maintenant. » Donc, ça veut dire qu'il faut aussi relativiser le propos au sens où il faut le mettre en relation avec le destinataire. Donc, tout ce que Paul va dire au sujet de la gente féminine doit être replacé dans son contexte. Dans la mesure où vous avez une conduite exemplaire, mesdames, il n'y a pas lieu de vous mettre sous le coup d'une quelque condamnation ou d'une coercition qui serait peut-être un peu trop dure, qui serait encore pire que les corsets d'autrefois. Bien. Ces précautions étant prises et n'ayant pas été accueillis de façon tout à fait totale, intéressons-nous quand même à ces versets 1 à 8 que je vous ai disposés sur cette feuille, de manière à vous montrer les correspondances qu'il y a. Là, ici encore, on a un jeu sur le singulier et l'universel, donc sur le « un » et sur le « tous ». Mais ce qui est intéressant, c'est que l'universalité va se déployer au-delà de la communauté des croyants. Et elle va, on le voit dès le départ, se déployer dans le registre de la société civile, dans la sphère politique. C'est pour montrer à quel point cette universalité est bien totale. Parce qu'évidemment, le risque, ce serait de dire « Mais oui, tous les membres de la communauté sont sauvés. » Et c'est en ce sens que le salut est universel. Mais non, l'universalité est bien au-delà des frontières visibles et même invisibles de l'Église.
Cette notion,
oui,
n'est pas partagée par toutes les communautés chrétiennes.
C'est vrai.
Et je fais référence aux évangéliques qui souvent, il y a leur communauté et pas les autres.
Eh oui. Mais peut-être que vous connaissez cette blague, alors je fais comme si elle nous concernait, nous qui sommes universalistes ou qui pouvons l'être. Enfin, je ne veux pas vous imposer d'être universaliste, vous faites comme vous voulez après tout. Mais c'est quelqu'un qui meurt, qui arrive au paradis et puis qui va faire le tour du propriétaire avec Pierre. Donc, vous voyez à quel point c'est une métaphore, une image, vous ne prenez pas ça au pied de la lettre. Et puis Pierre lui montre un peu comment ça se passe et en fait les gens se rassemblent un peu par affinité. Et donc là il dit, C'est en quelque sorte le carré des musulmans, et donc comme c'est vendredi, ils sont tous dans une attitude de prière, etc. Et puis la visite se poursuit, le lendemain, justement, ils montrent des juifs qui sont en train de célébrer le Shabbat, c'est joyeux, ça rigole, les enfants posent des questions, les adultes répondent ça. Puis le lendemain, c'est le dimanche, et puis du coup, ils vont voir un peu le quartier des chrétiens, et puis voilà, il y a beaucoup de prières, des louanges, des chants, de l'or, tout ça. Puis à un moment donné, il y a Pierre qui dit « baissez-vous, il faut qu'on passe sous la fenêtre ». Alors, le gars s'accroupit, il passe sous la fenêtre, etc. Et puis, une fois qu'ils ont passé le lieu où les gens se rassemblaient, il dit « Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu faire ça ?» Et là, il répond, alors on va faire comme si c'était nous, hein. « C'est les libéraux, ils pensent qu'ils sont les seuls à être sauvés. » Voilà. Bon, en fait, nous, bien sûr, vous avez compris. Donc c'est vrai qu'il y a encore, cette idée selon laquelle ça ne serait pas pour tous, quoi. Et alors, à quoi ça tient? Bon, je pense que pour une part, ça peut tenir à de mauvais sentiments humains, une sorte d'orgueil, une sorte de sentiment de supériorité. Nous, on est de la vraie foi, de la vraie Église, vous êtes que des mécréants. Une sorte de mépris des autres. Bon. Pour des raisons qui seraient peut-être un peu plus pures, peut-être une mécompréhension sur le thème de l'élection. Vous savez que l'élection, c'est un thème biblique. Et je formule l'hypothèse que certains confondent élection et sélection. Le thème de la sélection n'est pas un thème biblique. Je le disais encore dimanche dans la prédication, Dieu ne fait pas le choix entre un tel ou un tel. L'élection, c'est de choisir une personne, un groupe de personnes qui va aider les autres. En quelque sorte, c'est, par exemple, pour ce qui est d'Israël, c'est de faire d'Israël une lumière pour les nations, mais bien pour que les nations soient éclairées. Ce n'est pas « on choisit Israël et malheur aux autres ». Et effectivement, je pense que vous avez eu l'occasion de l'entendre déjà de la part aussi de mon collègue Marc Pernaud, qui dit « dès l'Ancien Testament, il y a une perspective universaliste ». Parce que lorsque Israël est élu par Dieu, il est élu en faveur de tout le monde. Abraham, c'est le père des nations, dont les successions seront innombrables comme les grains de sable ou les étoiles au ciel, et donc ça parle de l'infinité. Donc ça nous montre bien à quel point le thème biblique, c'est bien l'élection, c'est-à-dire que quelqu'un a une vocation particulière, et cette vocation, elle est à mettre au service des autres, et pas la sélection, où effectivement, on en choisirait quelques-uns, et tant pis pour les autres. Alors peut-être que vous avez en tête, mais quand même, dans le livre de l'Apocalypse, c'est bien 144 000 personnes qui sont sauvées. Donc ça veut dire les autres... Et qui a fait un peu d'arithmétique, c'est que 144 000, c'est 12 fois 12 fois 1000. Et donc, on comprend bien la symbolique. 12 tribus d'Israël, 12 apôtres du Christ. Donc, il y a ces deux étages. Puis après, il y a la multitude. Vous voyez, c'est pour dire que, bien entendu, il n'y a pas de limite à cette histoire. Alors, 144 000, c'est un nombre fini pour nous qui connaissons les nombres réels, les nombres imaginaires, etc. Mais en fait, c'est un nombre qui parle de l'infini. Un infini qui met quand même deux groupes en évidence, le groupe des 12 tribus et le groupe des 12 apôtres. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui ont des fonctions particulières, une vocation, mais que cette vocation est au service de la multitude pour eux. Faire un néologisme, disons. Donc, vous voyez qu'il y a dans ces huit versets de Timothée une sorte de refrain avec le tout. Toute chose. Tous les hommes. Tous. Tout lieu. Eh bien, moi, je trouve que c'est le génie biblique, ça. Huit versets pour parler de la totalité. Toute chose, tous les hommes, tout lieu. C'est en quelque sorte voilà, trois dimensions qui disent l'intégralité, quoi. Cette totalité, vous voyez, elle se répand bien dans la sphère civile, dans la sphère politique, puisqu'il convient dès le départ de faire des prières pour les rois et pour tous ceux qui ont une responsabilité. C'est assez subversif, cette affaire. On ne s'en rend pas bien compte. Mais à l'époque, personne ne priait pour les rois. On priait les rois. Vous voyez toute la différence ? Il y a un véritable changement de perspective. On a là quelque chose qui relativise, au sens où il le minore, le pouvoir du souverain, mais qui aussi le relativise au sens où il le relie à autre chose, c'est un seul Dieu. Pourquoi ? Parce que, et ça c'est par exemple Calvin qui va le développer de façon tout à fait intéressante dans son Institution de la religion chrétienne, c'est pour dire que il y a bien sûr une indépendance totale du champ politique par rapport au champ religieux, c'est-à-dire que ce n'est pas les pasteurs, les prêtres, le pouvoir clérical qui fait ou défait le pouvoir politique. Ce n'est pas lui qui dit au responsable politique ce qu'il doit faire ou autre. Mais en revanche, le pouvoir politique devrait avoir conscience qu'il n'est pas l'autorité ultime en matière de justice et de droit. C'est un peu ce qu'Antigone dit, au-dessus de la loi des hommes, il y a la loi de Dieu. C'est-à-dire que finalement, le magistrat, c'est comme ça qu'on appelle le responsable politique à l'époque de Calvin, c'est celui qui est là pour faire régner l'ordre dans la société civile, donc c'est le premier usage de la loi, mais il est là comme lieu tenant de Dieu finalement. C'est-à-dire qu'il est là pour assurer la justice telle que Dieu la conçoit. Et je crois que si Paul propose aux chrétiens, aux croyants, de prier pour les rois, c'est pour que justement le peuple croyant se sache rattaché à l'autorité des souverains, ou du pouvoir politique, disons. Parce qu'il y a, dès le départ du christianisme, la tentation de s'affranchir du pouvoir politique. Et c'est une tentation qui sera d'autant plus exacerbée au moment de la Réforme, avec les anabaptistes, par exemple, qui veulent s'affranchir de toute autorité politique, considérant qu'il doit y avoir une sorte de théocratie qui, où Dieu gouverne, et il gouverne par l'Église elle-même. C'est l'Église qui porte elle-même le glaive. Et là, Paul coordonne l'ensemble en disant il y a d'un côté les rois et ceux qui sont élevés en dignité qui forment un groupe différent de ceux qui font les prières. Ça veut donc bien dire que ceux qui font les prières ne sont pas ceux qui dirigent le monde. Il y a une reconnaissance de l'autorité du pouvoir politique. Et en même temps, l'ensemble est coordonné parce que c'est le même Dieu dans les deux cas. Si on voulait reprendre ça sur le plan théologique, on peut dire ça avec Martin Luther qui fait la théorie des deux règnes, la distinction des deux règnes. Il y a le règne temporel et le règne spirituel. Donc chacun a son domaine de responsabilité. Mais il n'empêche qu'au-dessus, c'est quand même le même Dieu. Ça veut dire que chacun a son domaine de responsabilité, mais il faudrait peut-être quand même avoir une perspective commune, une sorte d'horizon commun, une sorte de prédestination d'ensemble, quoi.
Prédestination d'ensemble, j'adhère.
Oui, ben voilà. Eh ben très bien. Donc, vous voyez comment Paul s'y prend. Il dit finalement la spiritualité, la piété concerne toutes les dimensions de la vie, hein, c'est toute chose, tous les hommes, tout lieu. Et finalement, la cerise sur le gâteau, c'est le fait que tout cela est rapporté à un seul Dieu et un seul médiateur entre les deux. Parce qu'évidemment, s'il y a un seul Dieu, ça veut dire qu'il y a une seule communauté humaine. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on parlait de solidarité, c'est bien ça. Il y a une sorte de fraternité qui s'instaure dans les faits. Il y a une vraie fraternité qui se crée, puisque un même Dieu, un même Père, en quelque sorte. Est-ce que cette vision de Paul vous pose question? C'est comme ça semble aller de soi, mais...
même Hitler.
Ouais.
Tout le monde, même Hitler.
Et oui. Et Raphaël Picon dit, d'ailleurs, il n'est pas improbable que Hitler et Martin Luther King soient côte à côte.
Voilà.
Ce qui n'a pas plu à tout le monde, je sais. Alors, est-ce que vous voyez dans le texte quelle est la conséquence de ce que Paul développe pour le croyant ? Le croyant, ici, finalement, c'est un peu la figure de Paul. Quelle est la conséquence directe pour nous, finalement, de cette histoire ? Oui.
Si on est intelligent ou stupide, ça dépend. Ça dépend comment on le voit. Enfin,
il ne faut pas raisonner en termes d'intelligence et de stupidité, mais en termes d'amour.
D'accord. Bon, le piège, ça serait de dire que tout se vaut.
Oui.
Tout le monde est pareil. Que tout, et que ça devienne une peste. En pratique, ça devienne comme ça. Je veux dire. Que ça soit bon. Tout ne se vaut pas, enfin, je sais pas. En pratique, tout ne se vaut pas.
Sur quel plan ? Sur quel plan tout ne se vaut pas ?
Sur le plan, je sais pas, moral.
Au niveau des conduites, par exemple.
Voilà, des conduites.
D'accord.
Voilà.
Mais, par exemple, au niveau de l'homme, puisque c'est quand même ça qui est au cœur du texte, hein, vous voyez ? Au cœur du texte, tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce qu'il pourrait y avoir plusieurs valeurs pour les hommes, plusieurs formes de dignité, certains au-dessus d'autres, quoi, pour le dire clairement. Est-ce qu'il y en a qui valent plus que d'autres ?
Non, mais certains connaîtront la vérité, d'autres ne la connaîtront pas.
Oui.
Et tous sont appelés à y parvenir.
Mmh. Et alors, quel est le vecteur, justement, pour que tous parviennent à cette connaissance et tous accèdent au salut ? Tout de suite, on se défausse sur Dieu.
Non, l'engagement de chacun.
C'est pas pour
prière.
On
parle de prédicateur et apôtre, c'est-à-dire qu'il faut aller l'apporter.
Et voilà. Eh oui. Eh oui, c'est que ça dépend de nous, en fait, cette histoire. Eh non. En fait, pour le dire avec les mots de Hannah Arendt, ce que Paul met en place, là, c'est que les chrétiens sont les obligés du monde. C'est-à-dire qu'on a une vraie vocation auprès de chacun et de chacune. À la fois en termes d'annonce, c'est-à-dire, comme il le dit, hein, prédicateur, apôtre, auprès des païens. Finalement, pas simplement par la parole, mais aussi par les actes.
D'amour.
Pardon ?
En termes d'amour.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, je reprends la question de la valeur des personnes. On pourrait se dire, qu'est-ce qui suscite l'action sociale d'une personne quand on s'engage dans une œuvre caritative ? Pourquoi ? Bon, il y a plein de raisons différentes. Et puis, on peut, pour certains, c'est parce que telle personne me bouleverse. Enfin voilà, il y a une situation qui m'émeut et du coup j'ai envie de l'améliorer, cette situation. Souvent, ce qui se cache derrière, c'est que on aime les gens qui sont aimables. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'humanisme qui est limité à ce qui me bouleverse. Alors c'est déjà parfait, c'est déjà beaucoup, très bien. Mais ici, c'est bien autre chose. C'est-à-dire que ceux qui vont être l'objet de mon attention, l'objet de mon amour, c'est bien tout un chacun, parce que tous sont aimés de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils sont aimables que je les aime, c'est parce qu'ils sont aimés que je les aime. Et là, je trouve qu'il faut vraiment être animé d'un amour surnaturel pour un truc pareil. Parce que des fois, finalement, on a plus d'amour pour les ennemis que pour des personnes qui nous semblent être, disons, des sous-hommes, quoi. Enfin, qui nous renvoient une telle image de l'humanité qu'on se dit, non, je ne veux pas que l'humanité ressemble à ça. Et au fond, si la seule chose qui nous motive, c'est d'aimer nos semblables, alors forcément, on n'est pas à la hauteur de ce que Paul est en train de mettre en place. Et donc, c'est en ce sens que je disais, ce texte est un texte qui aborde l'universalité du salut sous l'angle anthropologique, parce qu'il développe une anthropologie vraiment spécifique. Comme disait encore hier Marc Pinault lors d'une méditation, le prochain, c'est qui ? Est-ce que c'est celui qui me ressemble, comme deux gouttes d'eau, et de préférence celui qui partage le même ADN que moi, grosso modo mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, ma grand-mère, etc. Ou est-ce que le prochain, c'est celui qui s'approche de moi ? Et dans la perspective chrétienne, on le voit bien. La limite, elle vole en éclats. Le prochain, c'est bien celui qui s'approche et pas celui que je choisis.
Oui, on ne choisit jamais son prochain.
On ne devrait jamais le choisir.
On ne devrait jamais le choisir.
En tout cas, quand on choisit son prochain, on sort de la perspective chrétienne. Et voyez, en fait, je vais finir presque par là, c'est une sorte d'apothéose, c'est le bouclier final du feu d'artifice, vous voyez. Ce que Paul est en train de mettre en place là, avec cette histoire de toute chose, tout homme et tout lieu, c'est ce qu'on appelle de nos jours l'œcuménisme. C'est le principe de la terre habitée. C'est-à-dire que l'œcuménisme, c'est bien la prise de conscience que l'évangile retentit, non seulement l'évangile retentit au-delà de mon précaré, mais qu'en plus il concerne ceux qui sont au-delà de mon regard. C'est pas simplement au-delà de mon cœur ou de mon affection, c'est même au-delà de mon regard. Parce que c'est la terre habitée qui est concernée par cela. Donc, en fait, la question de l'universalité du salut est loin d'être une question anodine et d'être simplement une question de salon. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques textes dans la Bible qui vont pas dans le même sens. Donc, à un moment donné, il faut bien se déterminer en son âme et conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même, faire un choix, en quelque sorte. Un choix d'ensemble, c'est comment comprenons-nous non seulement la mission du Christ, mais finalement le dessein de Dieu. Et de là, en découle un regard sur l'être humain. Mais ça peut être à contrario, c'est-à-dire que ça peut être le regard que l'on porte sur l'être humain qui nous fait définir le projet que l'on imagine être celui de Dieu. C'est-à-dire que la théologie, c'est toujours un va-et-vient. C'est-à-dire que c'est notre histoire aussi qui conditionne notre compréhension du message biblique. C'est-à-dire que ce serait là aussi une illusion de penser que quand on lit la Bible, on la lit de façon neutre. Et donc, quel est l'intérêt d'une lecture à plusieurs, comme nous on le fait, en confrontant avec les pères de l'Église, les théologiens, avec un pasteur, avec d'autres paroissiens ? C'est que on met en dialogue finalement nos propres interprétations qui sont issues de notre histoire. Je ne sais pas si vous avez vu ce film American History X. C'est une histoire qui se passe aux États-Unis récemment. Enfin, c'est une fiction. C'est l'histoire d'une famille classe moyenne, le père est pompier, ils ont deux enfants je crois, tout se passe très bien, famille vraiment super, mignonne, etc. Des gens gentils, probablement croyants, mais après tout je ne sais même pas si c'est évoqué par le film. Puis un jour le père qui est pompier va en intervention sur un feu, et là il se fait accueillir, comme ça arrive des fois dans certains quartiers, par des personnes qui les caillassent, etc. Et le père meurt. Parce que des loubards s'en sont pris à un des représentants de l'autorité. Et l'un des fils, qui était tout ce qu'il y a de plus sympathique, etc., du coup, bascule dans le fascisme, le nazisme et le racisme. Et de la façon la plus violente qui soit, allant jusqu'au meurtre. Puis, quand il sera en prison, il y aura une rédemption pour lui. Mais c'est pour montrer que le regard que l'on porte sur l'autre est bien sûr extrêmement conditionné par notre propre histoire personnelle. Et ce qui est intéressant avec ces deux textes de l'apôtre Paul, c'est que ce sont deux textes qui font abstraction de toute considération personnelle. Alors, pour Romains 5, je conçois que l'abstraction soit tellement théorique qu'elle en soit un peu difficile à comprendre. Mais avec le jeu des oppositions et des effets miroirs, peut-être qu'on y voit un peu plus clair. C'est pour ça aussi qu'il est important de prendre l'épître à Timothée, qui est quand même beaucoup plus explicite, plus simple, plus clair. Même la présentation que je vous en ai faite est plus aérée, plus agréable. Donc voilà. Et qui montre une forme de progression. Et qui, je crois, est un argumentaire intéressant et dépassionné. C'est-à-dire que, voyons, ça ne joue pas sur l'affect. Ça ne joue pas sur... sur des sentiments, ça joue pas sur on est pris aux tripes, etc. Ça fonctionne presque de façon objective, même si ça s'appuie quand même sur un regard de croyant. Et puis, je crois que le dernier mot est tout à fait intéressant. Le dernier mot du verset 8, c'est « mauvaise pensée ». Alors, je sais pas pourquoi c'est traduit par « mauvaise pensée » ou « contestation ». Parce que, en fait, le terme, c'est dialogue. Ouais. Voilà. Et donc, au fond, alors, voilà, peut-être que je...
Ça traduit par dispute.
Oui. Mais ça peut être une dispute féconde. Une disputation. Voilà. Et finalement... Je me demande s'il n'y a pas une... Enfin, c'est ambigu comme fin de texte, parce qu'on pourrait se dire « Il faut donc que les hommes prient en tout lieu sans colère et sans dispute. » Mais je me demande si le texte grec ne dit pas « sans colère et avec dispute. » Enfin, dispute au sens dialogue, parce que c'est le dialogue, c'est la disputation au sens où il y a un conflit d'interprétation. Et c'est ce conflit qui est fécond. Oui, même peut-être l'interreligieux, etc. Mais en tous les cas, il me semblait qu'on pouvait y voir là quelque chose qui est extrêmement dynamique, parce que justement, là, Paul se fait le prochain de tous. Hein, en étant apôtre, en étant prédicateur, en étant chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité, finalement, il se fait le prochain de tous. Et c'est peut-être un autre renversement par rapport à ce que disait Jésus. Et finalement, c'est de qui je me fais le prochain, là, avec Paul. C'est-à-dire, finalement, qui est-ce que je considère digne de la vérité? Et ça, je crois que c'est la question qui vaut en christianisme, dans une démarche de foi. Parce qu'il peut y avoir là aussi une sorte de mépris à considérer que l'autre n'est pas digne que je dispute avec lui sur le plan théologique. Il n'est pas digne, il ne peut pas avoir accès à la vérité dont moi je suis porteur. Et bien ça, c'est tout à fait contraire à la perspective de Paul. Et au fond, il me semble qu'il y a là quelque chose qui est assez symptomatique, par exemple, de l'université française, sur laquelle je ne veux pas jeter l'opprobre non plus. Mais il y a quand même une tradition française malheureuse, dans le milieu académique, c'est ce qu'on appelle la rétention d'information. C'est-à-dire que ceux qui savent, grosso modo, en gardent toujours un peu sous le coude pour être supérieurs aux autres. Eh bien...
Là, ça se pratique pas que dans l'université, ça ouais. Se pratique beaucoup dans l'administration. Hein.
C'est possible aussi. Toujours est-il que...
Celui qui invente apocatastase, il en garde sous le pied pour le langage.
Non, il vous l'offre, ce terme. Il vous l'offre. C'est un cadeau, c'est quasiment la fève de la galette de l'Épiphanie.
Je pourrais mettre un bémol. Parce oui. Que, enfin, je ne sais pas, je trouve que moi, dans mon expérience personnelle, je trouve que la colère, dans certains cas, c'est un sentiment très important, et le sentiment d'injustice. Parce qu'il porte le sentiment d'injustice et qu'à partir de la colère, ça peut permettre à l'individu de retrouver une grande force pour se sortir d'une situation difficile dans laquelle il est. Mmh. Je dis ça par rapport à la situation dans laquelle je me suis parfois retrouvée. Dans les hôpitaux où j'étais, dans les maternités, par rapport à quelque chose comme le deuil d'un enfant. Et ça m'est venu spontanément. Mmh. La nana, je l'ai foutue en rôle. Mmh. Je l'ai foutue en rôle.
Mmh. Et ça participe du processus de deuil.
Parce que c'était vachement important. Parce que, et puis au fur et à mesure que je le faisais, je sentais que c'était absolument essentiel qu'elle ressente l'injustice très très profondément et qu'elle le sorte, l'injustice qui lui était faite.
Oui. Alors, une chose est la perception de l'injustice, la conscience de l'injustice. Une autre est la colère. C'est-à-dire qu'il faut à la fois garder sa capacité à protester, mais il ne faut pas perdre pour autant sa capacité à aimer. Et souvent, la colère est le moment où l'amour dont on est capable est mis en veilleuse et sous l'été noir. Et vous voyez, la colère, c'est peut-être le moment où, à hauteur d'homme, le péché surabonderait là où l'amour abonde. Et c'est un peu le risque de la colère telle qu'elle est présentée, je crois, dans les textes bibliques. La colère qui n'est pas bonne conseillère dans la tradition populaire, mais vous voyez, dans les textes bibliques, il y a des endroits où les prophètes s'opposent à de l'injustice et s'opposent vertement. Mais ça ne rentre pas dans le registre de la colère qui est une sorte d'aveuglement. C'est un peu comme si, d'un seul coup, tout passait par le prisme de la colère, et du coup, il n'y avait plus de générosité. Le risque de la colère, c'est de tuer l'autre, en fait. C'est Caïn qui est enfermé dans son obsession et qui tue son frère, de colère, de jalousie, etc., parce qu'il n'a plus que ça. Vous voyez, c'est tout l'inverse des lunettes 3D. Au lieu de mettre en perspective, ça écrase tout. Peut-être la colère. Mais c'est autre chose que ce que vous me dites par rapport à cette étape du processus de deuil qui est la révolte, qui est le fait de ne pas accepter la situation. Et ça, c'est non seulement normal, mais tout à fait sain. Hein, encore ce que je disais dimanche dernier, quand on accepte l'ordre des choses, eh ben, ça veut dire qu'on s'est soumis, qu'on trouve ça normal, et qu'on justifie. Il y a des choses qui ne sont pas justifiables. Donc, on devrait trouver un autre terme que la colère, disons. La révolte, ça me semble pas mal. La révolte au sens même camusien du terme, d'ailleurs. Protester. C'est à la fois aller à l'encontre d'eux en disant « ça va pas, c'est scandaleux », ça. Et protester, c'est aussi témoigner pour, protestare. Hein? Et aussi l'attestation en même temps. Les protestants ne sont pas que des coupeurs de tête. Ils sont là pour susciter la vie, quoi. Voilà pour notre petit tour d'horizon sur le sel universel que, bien entendu, on n'a pas épuisé. D'abord parce qu'on n'avait que deux textes bibliques à grignoter. Et parce que c'est une tâche infinie, cette histoire. Et puis la fois prochaine, eh bien, on continue notre joyeux parcours sur la question du salut. Et sauf erreur de ma part, ça sera le péché contre l'esprit. C'est-à-dire que certes, le sel universel, mais la liberté est indestructible, avons-nous dit. Et parfois, certains semblent prendre un malin plaisir à vouloir s'exclure d'eux-mêmes du salut qu'il aurait proposé. Et alors, que se passe-t-il dans ce cas-là ? Rendez-vous la fois prochaine.